Salut à tous et bienvenue au Balado, une production des étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de la très, mais très prestigieuse Université de Montréal. À nos fans de partout dans le monde, on vous salue. Que retrouve-t-on dans cette quatrième saison du Balado? Comme son nom le porte bien, cette balado traite des sujets d'actualité pour nos adolescents. Ces belles bébites qu'on aime un peu, parfois, et à la folie. Bref, serrez vos étriers bien comme il faut sur vos fixés, les amis. On démarre en trompe. Bonne écoute.
Bonjour à tous, mon nom est Ryan Abdi et bienvenue dans un nouvel épisode du Balado. Je vous rappelle le concept, les étudiants de 3e année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé vous parlent des enjeux qui sont vécus par les adolescents dans notre société actuelle. L'épisode d'aujourd'hui est lié à un autre épisode qui traite du même sujet, la délinquance chez les adolescents. Par contre, cet épisode se concentre sur l'aspect préventif du sujet. En effet, dans notre société moderne, gérer la délinquance chez les adolescents demeure un défi majeur et embarque plusieurs facettes. Les comportements déviants et parfois criminels des jeunes peuvent entraîner des répercussions profondes tant sur leur propre vie que sur la société. C'est pour cela que moi et mes collègues, nous nous sommes intéressés sur les moyens ainsi que les ressources qui s'offrent à nous pour aider ces jeunes. L'épisode d'aujourd'hui vise donc à comprendre les facteurs de risque sous-jacents et à mettre en place des mesures préventives adaptées. Pour ce faire, nous aborderons diverses méthodes et pratiques tout en examinant les défis persistants qui nous attendent. Le but est de répondre à la question suivante. Comment pouvons-nous prévenir la délinquance chez les adolescents? Je vous souhaite une bonne écoute. Donc comme vous le savez, il y a toujours eu de la délinquance chez les adolescents comme chez les adultes et je ne pense pas qu'elle risque de disparaître du jour au lendemain. Cependant, en tant que futur enseignant, nous pensons qu'il est essentiel de s'intéresser aux raisons qui pourraient pousser certains ados à adopter de mauvaises conduites. De cette manière, nous pourrons trouver des pistes et des moyens pour outiller l'entourage de ces jeunes dans le but de prévenir leur conduite illégale. Bon, on a compris que la capsule parle de la prévention de la délinquance. Mais la délinquance, c'est quoi concrètement? Je pense qu'il est important de définir ce mot-là avec vous, chers auditeurs, avant de vous expliquer la suite des choses. Donc, d'après une définition des années 80, on définirait ainsi la délinquance comme l'ensemble des comportements d'adolescents qui transgressent les normes de conduite conventionnelles et qui, habituellement, peuvent poser un problème à l'entourage de leurs auteurs. Si j'adapte cette définition aujourd'hui, la délinquance serait un terme utilisé pour décrire un comportement criminel qui va à l'encontre de la loi. Quand on pense à la délinquance, on pense à un vol, un vandalisme, de la violence, du trafic de drogue, de la fraude, du harcèlement, etc. Le sujet est un peu plus complexe que ça et nous le verrons un peu plus tard dans la capsule. Maintenant, pour savoir comment prévenir la délinquance, connaître sa définition ne suffira pas. Il faut approfondir ses connaissances par rapport au comportement des adolescents. Mais comment faire ça sans se perdre et par où commencer? Un adolescent, c'est complexe, non? Ne vous inquiétez pas, on s'est occupé d'organiser tout ça pour vous. Notre équipe s'est questionnée sur différents sous-aspects de la question et avons réorganisé nos idées pour pouvoir simplifier notre démarche. Nous sommes passés par plusieurs points et avons finalement établi un plan d'attaque qui se compose de 4 aspects que nous essaierons de démystifier avec vous durant cet épisode. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et attaquons le premier aspect parmi les 4 qui nous aidera dans notre démarche pour répondre à la question. Comment pouvons-nous prévenir la délinquance chez les adolescents? Pour répondre à cela, ma collègue Mélissa Pépin va démystifier avec vous quels sont les besoins émotionnels des adolescents et qu'est-ce qu'on doit retenir de ça. On l'écoute.
Donc maintenant, on va se pencher sur la question suivante. Quels sont les besoins émotionnels des adolescents? En effet, on s'est dit que ça pouvait être pertinent de se poser cette question-ci parce que si on comprend mieux ces besoins-là, si on les cible, ça va peut-être être plus facile par la suite de proposer des solutions qui vont être adaptées à ces besoins-là. Donc, un un des premiers besoins, ce serait le besoin d'avoir confiance en soi et donc d'avoir une image positive de soi-même, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Des ados qui ont peu confiance en eux pourraient avoir tendance à se laisser davantage influencer par leur père dans le but de se sentir valorisé par eux. Et puis des fois, ces influences-là pourraient être négatives et les mener à des comportements un peu plus délinquants. Une des solutions qu'on pourrait proposer dans les établissements scolaires, ce serait par exemple d'ouvrir les plateaux sportifs sur l'heure du midi ou après les cours avec la supervision d'un adulte, bien évidemment. Parce que dans le fond, ça a été prouvé là, dans plusieurs études que le sport aidait beaucoup les adolescents à avoir une meilleure perception d'eux-mêmes. Puis en plus, c'est une solution qui serait quand même peu coûteuse là, pour les écoles parce que ça serait des plateaux qui existent déjà, donc on n'a pas d'infrastructure à construire. Le matériel aussi, ça serait du matériel de gymnase qui serait fourni. Fait qu'il y aurait juste peut-être un petit montant déboursé pour payer des superviseurs. Sinon, ça peut se faire peut-être de façon bénévole si on est chanceux. Sinon, un autre des besoins des adolescents, ce serait le besoin de sentiment de liberté d'expression. Donc, on sait bien que si les adolescents ne se sentent pas libres de s'exprimer, que ce soit à la maison, et à l'école, dans leur cercle d'amis, ils pourraient aller compenser ce manque-là en allant écrire, par exemple, des propos offensants sur les réseaux sociaux. Ça serait un des signes de délinquance qu'ils pourraient avoir. Ils seraient également plus propices à s'engager dans des mouvements extrémistes et radicaux. Donc, en effet, là, le fait d'être libre d'expression permettrait aux adolescents de développer un sentiment d'autonomie et de distinction face à leurs géniteurs, tout en leur permettant de progresser dans leur quête identitaire. Donc, ce qu'on pourrait suggérer, ça serait, par exemple, on pourrait proposer aux parents d'organiser des débats au moins une fois par semaine avec toute la famille. Fait qu'on pourrait réunir toute la famille à la table et on pourrait poser une question que ça pourrait être, par exemple, l'école qui crée un forum avec différentes questions, différentes suggestions de questions qui pourraient être posées durant ces débats-là. Puis, pendant ce moment-là, tout le monde de la famille assiste, tout le monde écoute le point de vue de tout le monde. Il est pressé d'emmener leurs adolescents ou les parents à avoir d'autres points de vue. Donc, de cette façon-là, les adolescents pourraient sentir que leur opinion compte, puis qu'ils sont écoutés, puis se sentir plus libres de cette façon-ci. Sinon, un autre des besoins des adolescents, ce serait le besoin d'autonomie dans les différentes tâches ou dans les différents projets qu'ils entreprennent. Ou encore, ils veulent sentir qu'ils sont en mesure de résoudre certains problèmes ou de gérer des conflits par eux-mêmes. Donc, ils veulent qu'on leur fasse confiance dans leur démarche choisie. C'est quand même important aussi. Pour que l'adolescent soit de plus en plus autonome, les parents pourraient proposer de plus en plus de tâches, donner de plus en plus de responsabilités à leurs enfants, à leurs adolescents dans le fond. Par exemple, d'organiser, de faire le ménage de leur chambre par eux-mêmes, d'organiser leurs devoirs par eux-mêmes, donc le temps qu'ils consacrent à leurs études, de gérer par eux-mêmes le temps qu'ils consacrent sur les écrans, puis voir par eux-mêmes les effets positifs, négatifs de passer plus ou moins de temps sur les écrans, par exemple. D'autres besoins qu'on va nommer, ça serait le besoin de se sentir outillé pour gérer leur stress. Et en effet, si un adolescent ne se sent pas en mesure de gérer son stress, il pourrait avoir tendance à se tourner vers des drogues ou de la consommation d'alcool pour gérer ce stress-là qui devient lourd à la longue. Et sinon aussi, l'adolescent a besoin d'avoir de l'intimité avec quelqu'un d'autre que leur figure parentale. Donc, que ce soit un ami, un amoureux, peu importe. Et en effet, là, cette personne-là pourrait servir de confident à l'adolescent. Donc, bref, on peut dire que les adolescents ont quand même beaucoup de besoins émotionnels et il y en a beaucoup d'autres aussi là, qu'on n'a pas mentionnés dans cette capsule-ci. Ces besoins-là ne sont pas comblés, ça pourrait éventuellement les mener à avoir des comportements délinquants. Donc, c'est pour ça que c'est important de trouver des préventions qui sont adaptées à chacune des situations.
Donc, grâce à Mélissa, nous avons pu prendre connaissance de plusieurs manques au niveau émotionnel que certains adolescents pouvaient ressentir. En plus de nous les expliquer, elle nous a fait part des moyens à entreprendre pour remédier à ces sortes de vides émotionnels. Par exemple, pratiquer du sport à l'école pour augmenter son estime de soi serait une excellente idée pour régler le problème. Donc, ce que nous venons de comprendre avec ce point, c'est que la prévention de la délinquance chez les adolescents passe par une compréhension de leurs besoins émotionnels, par la mise en place d'un soutien adéquat et par le renforcement de leurs compétences sociales. Cela contribue donc à créer un environnement plus sain et moins propice aux comportements délinquants. Continuons maintenant en abordant notre deuxième aspect qui va s'intéresser sur les formes que peuvent prendre la délinquance chez les adolescents. En effet, ces jeunes sont tous différents et leurs actes le sont aussi. Mon collègue Aaron Rubio s'est chargé de vous parler des 4 modèles de délinquance qui existent et de vous expliquer ce qui les distingue. On l'écoute.
Oui, donc salut, moi c'est Aaron, content d'être ici. Je suis étudiant de troisième année en enseignement de l'éducation physique. Donc pour ma partie, j'ai fait un petit peu de recherche pour pouvoir répondre à la question suivante. Donc, sous quelle forme la délinquance prend vie chez les adolescents? Donc, je pense que c'est vraiment une question importante. Puis, c'est aussi important de comprendre que la délinquance chez les adolescents, ben, elle peut se manifester de différentes formes. Ben, pourquoi? Ben, parce que chaque jeune est différent. Donc, chaque jeune vient d'une famille différente, a des vécus différents. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment plusieurs facteurs qui contribuent. Donc, on peut parler des éléments sociaux, économiques, familiaux, psychologiques aussi. Donc, c'est vraiment, pour pouvoir répondre à cette question-là, ben, il faut savoir que il y a une variété d'éléments qui rentrent en compte pour chaque jeune. Donc, moi, j'ai fait un petit peu de recherche. J'ai trouvé un article qui était vraiment intéressant qui s'appelle « De la délinquance juvénile à la criminalité adulte ». Donc, c'était vraiment un article qui étudiait justement les différentes formes de délinquance chez les adolescents. Puis, eux, ils sont arrivés à 4 modèles qui distinguent les conduites de délinquance auprès des adolescents. Donc, le premier modèle, en fait, s'appelle la délinquance intermittente. C'est quoi? C'est un modèle de comportement délinquant qui va vraiment être caractérisé par des événements isolés. Donc, ça va être des comportements qui ne vont pas arriver souvent. Donc, c'est vraiment... Il y a quelques exemples par rapport à ça. Ça serait des manifestations délinquantes, comme par exemple des vols à l'étalage occasionnels. Donc, des graffitis, des bagarres, des petits vandalismes. C'est vraiment des actes occasionnels chez l'adolescent. Par après, le deuxième modèle, ce serait vraiment... la délinquance explosive. Donc ici, tu as vraiment un peu plus des comportements plus fréquents et variés. Donc, tu as une variété de comportements chez le jeune. Et je pense que c'est important de souligner la fréquence. C'est vraiment au niveau de la fréquence et la diversité qui commence à grandir chez le jeune. On va trouver des vols un peu plus répétitifs, des vols à l'étalage, des vols de véhicules. Donc, ça serait un petit exemple. Sinon, il y a aussi du vandalisme, des fraudes. Donc, à ce niveau-ci, le jeune va commencer à avoir un petit peu plus d'activité au niveau de la délinquance. Ensuite, il y aurait le troisième modèle qui consiste à qui est la délinquance persistante mineure. Donc, c'est vraiment des actes de délinquance qui perdurent un petit peu plus pendant l'adolescence, qui sont un peu plus prédominants Entre autres, on a des actes de désordre public, des cambriolages. Donc, ça peut être d'entrer illégalement dans des maisons, des bâtiments pour voler. Puis aussi, ça inclurait des vols de biens personnels. Donc, on voit qu'il y a un petit peu plus d'actes qui sont considérés graves dans ce niveau-ci. Puis, finalement, on va arriver au quatrième modèle qui serait la délinquance persistante grave. Donc, c'est un stade où l'activité délinquante prend une plus grande ampleur. C'est vraiment, c'est diversifié dans la forme de manifester ce stade. Puis, c'est vraiment marqué par des actes de violence physique. Donc, maintenant, ça va être vraiment, ce stade-là va être vraiment marqué par la violence physique. Donc, ça va être vraiment des bagarres, des situations où il va attaquer d'autres personnes par des actes violents. Ça va même jusqu'aux infractions sexuelles dans certains cas. Il y a des adolescents qui vont vraiment présenter des attitudes et à caractère sexuel qui vont aller jusqu'au viol ou même l'agression sexuelle ou même la pédophilie. Dans ce stade-ci aussi, on va voir des jeunes qui vont être impliqués dans le trafic de drogue. Donc vraiment plus dans des gangs, si on peut le dire, où il va avoir un niveau d'activité criminelle impliquant les drogues. Donc c'est vraiment une étape qui se distingue vraiment des autres. C'est vraiment des actions vraiment plus graves et plus répétitives que les autres. Puis voilà, donc c'est un petit peu les quatre stades que j'ai pu trouver dans cet article-là qui mettait vraiment l'emphase sur la différenciation et sous quelle forme la délinquance prenait vie chez l'adolescent, dépendamment de la phase où il se situait. Puis voilà, donc je trouve que c'était vraiment intéressant de voir les formes sous lesquelles la délinquance pourrait prendre vie chez les jeunes. Puis c'est assez triste en même temps, on va se le dire, parce que tu peux voir on va dire l'échelle de gravité par rapport aux actes qui sont commis puis qui prennent vie chez les jeunes, malheureusement.
Merci Aaron de nous avoir éclairci sur ce sujet. J'espère que vous avez maintenant une vision claire des formes que peuvent prendre la délinquance. Maintenant, en connaissant les besoins émotionnels des adolescents et en ayant une idée claire de comment la délinquance peut prendre forme chez les jeunes, il serait intéressant de s'attarder sur les répercussions que cela pourrait avoir sur leur environnement. Je laisse la parole à mon collègue Nader Samra qui abordera ce troisième aspect avec vous.
Donc, pour ce qui est de la question de quel aspect de l'environnement de l'adolescence la délinquance affecte-t-elle ou se fait affecter par la délinquance, car c'est un lien qui est quand même parallèle, et il faut évidemment savoir que c'est un sujet qui est très large et qui a beaucoup de variables. Par contre, je profiterai de ces quelques minutes pour parler des points principaux de l'environnement d'un adolescent qui peuvent être affectés. Donc, parmi ces environnements importants, on trouve évidemment les liens familiaux, les liens avec les pères, la scolarité et l'emploi. Donc, pour ce qui est des relations familiales, nous avons clairement vu à partir de plusieurs recherches qu'il y a un lien direct entre la forme de supervision des parents et la délinquance. Ce que je veux dire par là, c'est que des parents qui ont tendance à être moins au courant de ce qui se passe dans la vie de leurs enfants, qui ne surveillent pas assez, et qui ne s'assure pas de vérifier avec qui il passe son temps, on remarque dans ce type de famille un plus grand taux d'actes violents commis par les adolescents. Ce qui est le cas dans les écoles d'ailleurs, mais on en viendra dans une minute. Donc, c'est un problème qui est plus grand que ce qu'on pense, car en fait, une recherche qui a été faite en 2006 nous a montré que 30% des élèves qui ont été questionnés disent que leurs parents ne savent jamais ou presque jamais où ils sont ou avec qui ils passent leur temps. Donc ces recherches, encore une fois, nous montrent L'importance de l'encadrement et de la supervision familiale comme outil afin de réduire le taux de délinquance et de prévenir ces comportements délinquants. Et je tiens à faire le lien ici entre les relations familiales et les relations avec les pères. En effet, les recherches nous montrent également que des élèves ou des adolescents qui ont tendance à passer beaucoup de temps avec d'autres adolescents qui montrent un comportement agressif, ils finissent eux aussi par avoir des comportements agressifs. C'est pour ça qu'on a pu voir, à partir de la même recherche qui a été faite en 2006, qu'il existe un lien étroit entre l'exposition d'un jeune à des bagarres et sa participation à des actes violents à son tour. Donc ici, on peut voir le lien entre le manque d'encadrement des parents qui amène à ce que l'adolescent fréquente et d'autres adolescents qui sont agressifs, qui a comme conséquence le fait qu'il devient lui aussi agressif. Puisqu'évidemment, ça prépare le terrain pour lui d'adopter des comportements délinquants afin de se sentir conforme à son groupe de pairs. Maintenant, pour ce qui est de la scolarisation, il y a plusieurs études qui nous ont montré que les décrocheurs ont plus de comportements déviants que les diplômés. Donc le contexte scolaire est crucial pour comprendre les comportements des jeunes. On voit que des environnements scolaires de type communaux, qui sont caractérisés par un environnement de soutien, de collaboration, ils ont tendance à être associés à des risques de délinquance chez les jeunes beaucoup moins élevés. Cependant, les écoles qui présentent des taux plus élevés de victimisation, de délinquance, de bagarres chez les élèves sont associées à des résultats scolaires médiocres. Donc, on remarque ici encore une fois que l'environnement d'encadrement et les comportements auxquels l'adolescent est exposé influencent grandement ses résultats scolaires et son cheminement scolaire. Donc, comme on a vu dans les relations familiales et les groupes de pairs et les écoles, ça nous montre l'importance de l'encadrement et des comportements auxquels l'élève est exposé. Finalement, pour ce qui est des emplois, il est évident que des actes de délinquance lors de l'adolescence peuvent amener à des conséquences plus graves dans le futur. Par exemple, un adolescent qui a eu un dossier criminel, il peut avoir beaucoup de difficultés dans le futur à avoir un emploi. Et le problème crucial ici, c'est le fait que la période d'adolescence est évidemment qui est une période marquée par un manque d'expérience dans la vie. Les adolescents, ils ont un manque de perception, ils ont de la difficulté à vraiment savoir à quel point leurs actes peuvent avoir des conséquences graves dans le futur. C'est dans cette même période-là qu'on peut faire de tels actes qui peuvent influencer notre vie à tout jamais. Ainsi, ça souligne le danger d'un manque d'encadrement, encore une fois, dans une telle période. Car ça peut amener, comme j'ai dit, à des conséquences irréversibles dans le futur. Donc, si je veux bien résumer tout ça, je dirais que le point crucial qui influence le comportement, qui influence l'environnement des adolescents, est le point crucial. Comment l'adolescent se développe à partir de l'environnement de l'adolescent, je dirais que c'est la question de encadrement. Que ce soit dans la famille, que ce soit avec les groupes de pairs, que ce soit à l'école, une mauvaise encadrement amènera inévitablement à ce que l'adolescent adopte des comportements délinquants. Avec cette adoption, on aura des taux d'actes violents plus grands, des cheminements scolaires plus difficiles, des résultats scolaires qui sont plus médiocres. Et ça peut amener des conséquences qui vont rester avec l'adolescent, même si à un moment, on va dire, il arrête la délinquance. Mais les choses qu'il a fait lors de cette période, ils vont rester avec lui lors de sa vie, qui vont influencer sa vie au futur, ses options d'emploi, etc. Donc, je souligne l'importance et encore l'importance d'un bon encadrement, que ce soit à partir des parents, à partir des écoles, à partir de la société, etc., afin de prévenir et de réduire les risques qu'un élève tombe dans un tel comportement à une telle période de sa vie. Et je vous remercie.
Très, très intéressant. Merci à Nader de nous avoir éclairé sur la question des impacts que peut avoir la délinquance sur l'environnement d'un adolescent. Je pense maintenant qu'il est grand temps d'attaquer notre dernier aspect et sûrement le plus déterminant. Qu'est-ce qu'une bonne prévention? Je vais laisser le privilège d'aborder la question à mon ami Aaron Rubio. On l'écoute.
Oui, donc qu'est-ce qu'une bonne prévention? Je pense que d'abord, c'est important de définir le mot prévention. On a regardé une définition dans le dictionnaire Larousse qui le résume assez bien. Donc, ça serait la prévention, c'est un ensemble de dispositions prises pour prévenir un danger, un risque ou un mal. C'est une organisation chargée de mettre en place des dispositions. Donc, avec cette définition-là, on comprend que il y a certaines organisations qui doivent être mises en place pour pouvoir effectuer une prévention, donc prévenir quelque chose de mal. Donc, dans ce cas-ci, la délinquance chez les jeunes. Donc, bien évidemment, on sait que la prévention, ce n'est pas qu'une seule ressource, donc c'est un ensemble de ressources. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour justement avoir une bonne prévention. Pour qu'elle soit fonctionnelle chez les jeunes, ben, c'est vraiment essentiel qu'il y ait un sentiment de liberté, que les jeunes se sentent vraiment libres, qu'ils puissent avoir cet espace où ils puissent s'exprimer et être eux-mêmes. Parce qu'on sait que à cet âge-là, à l'adolescence, les jeunes ont des besoins émotionnels. Donc, c'est vraiment important de privilégier une approche humaniste avec les jeunes. Donc, je pense que c'est la chose primordiale pour pouvoir prévenir la délinquance chez les jeunes. Donc, il faut aussi que les jeunes soient actifs dans le processus puis qu'ils puissent s'épanouir. Puis apporter aussi vraiment leur contribution dans les enjeux qui font face, donc dans tout ce qui les entoure. Aussi, pour rendre le tout un petit peu plus accrocheur pour les jeunes, on s'est rendu compte qu'il serait pertinent d'utiliser les médias pour les aider. Donc, on sait que souvent les médias ont été perçus comme un facteur à risque, où on les voit vraiment plus dans le négatif, mais je pense que ça peut être un facteur vraiment de protection, puis qui peut aider le développement des jeunes, puisqu'ils sont vraiment exposés à ça durant toute leur adolescence. Cependant, il faut aussi prendre en considération les facteurs de protection qui sont les plus proches du jeune. Puis, la famille en serait un. Donc, ça a vraiment été prouvé que le dynamisme, le fonctionnement, les caractéristiques de la famille, pardon, et en incluant le quartier de résidence, c'est des facteurs très importants chez le jeune. Donc, il serait question de vraiment sensibiliser les familles pour créer un facteur de protection chez le jeune à ce niveau. Comment on peut faire ça? Ben, selon Sécurité publique du Canada, ils ont vu que le dynamisme d'une famille peut vraiment être favorisé en créant des relations basées sur l'attachement, un soutien positif, une supervision parentale adéquate. Donc, c'est vraiment de créer un environnement où le jeune peut se sentir soutenu, aimé. Donc, on sait que c'est vraiment un facteur qui est un facteur de protection qui est vraiment primordial chez le jeune. C'est aussi très facile à dire, un peu plus compliqué le faire. Mais cette source-là nous a fourni trois bons indicateurs pour caractériser les familles en tant que facteurs de protection. Parce que, premièrement, il y a le niveau d'éducation des parents, la stabilité financière et la stabilité de l'unité familiale. Donc, on sait que pour avoir une bonne intégration des familles dans un quartier, pour avoir de bonnes relations avec les voisins, des activités scolaires qui impliquent le reste de la famille, ben, ça serait des bons exemples de ce qui peut caractériser un bon quartier, donc un bon environnement pour que le jeune puisse se développer. Donc, on a vraiment parlé de ce facteur qui représente vraiment quelque chose qui est primordial dans la vie d'un jeune, qui est la famille. Donc, on pourrait dire qu'une solution sera en fait de d'être capable d'identifier les familles à risque, donc des familles qui ont un peu plus de misère dans, au niveau de ce facteur de protection, puis leur offrir des ressources comme des formations, des thérapies et des plans de traitement. Donc, ça serait vraiment une façon de venir fortifier ce facteur de protection si important qu'est la famille.
Parfait. Nous venons d'entendre le dernier aspect qu'il fallait démystifier pour pouvoir répondre à la question finale : comment pouvons-nous prévenir la délinquance chez les adolescents ? Si vous avez bien écouté, vous avez pu remarquer que chacun de mes chers collègues, en plus d'expliquer leurs points, donnait des pistes de solutions pour nous aider dans notre démarche. En regroupant leurs informations et en analysant ce qui a été dit, répondons à la question ensemble. Tout d'abord, pour prévenir la délinquance, il serait important d'accorder une grande importance aux besoins émotionnels des jeunes. Comme Mélissa nous l'a expliqué, l'un des enjeux durant la période d'adolescence est le manque d'estime de soi, ce qui pousserait certains à adopter des comportements délinquants. Les raisons qui poussent à cela sont nombreuses. Il y a la pression des pairs, le besoin d'attention, la quête d'identité ou simplement dans le but de se défouler. Il faudrait donc que les parents ainsi que les écoles s'assurent d'avoir un environnement qui favorise l'estime de soi pour ces jeunes. Mélissa nous avait donné une idée d'ouvrir les plateaux sportifs dans les écoles durant les heures du midi ou après les heures de classe. Cela permettrait aux élèves de faire du sport et d'éviter le flânage qui, on sait, peut favoriser le comportement délinquant. Elle a aussi souligné le fait que certains ados n'ont pas l'opportunité d'exprimer librement ce qu'ils ressentent. Il peut en découler de cela une frustration qui pourrait se manifester dans un comportement délinquant. De nos jours, les réseaux sociaux sont devenus une place où la haine est presque le bienvenu. Il faut donc faire attention à cela et prendre le temps de discuter avec les jeunes. Ce qu'on propose, c'est de créer plus d'opportunités pour laisser les adolescents s'exprimer. Les écoles ou les parents peuvent organiser des discussions ou des débats pour pouvoir comprendre la pensée de ces jeunes. On peut aussi préparer des ateliers dans un environnement social pour favoriser la liberté d'expression dans un milieu sain. Maintenant, parlons du cas de faire de la prévention contre la délinquance. Faire des conférences pour sensibiliser la délinquance est devenu trop répétitif. Les préventions classiques où on dit « ne fais pas ça, c'est pas bon pour toi » peut dans certains cas donner l'impression qu'on dicte aux adolescents quoi faire et quoi ne pas faire. C'est souvent la raison pourquoi certains ne prennent pas au sérieux ce genre de message et vont malheureusement suivre le chemin qui est défavorable. Pour résoudre ce problème, nous pouvons faire un lien très intéressant avec une étude menée par Christopher Bryan qui avait pour but d'évaluer l'impact des différentes préventions en lien avec une alimentation saine chez les adolescents. Pour que la prévention fonctionne, deux besoins des adolescents sont ressortis. La recherche d'autonomie et la liberté de prendre des décisions indépendantes. En bref, l'étude consistait à montrer deux types d'articles aux adolescents qui se rapprochaient de leurs valeurs. Pour le premier groupe, il y avait des articles qui dénonçaient les entreprises marketing manipulatrices qui poussent à la consommation de produits trop gras et trop sucrés. Cela va à l'encontre de la liberté de prendre des décisions libres et indépendantes. De l'autre côté, on ne montrait que des articles parlant sur les méfaits d'une alimentation trop grasse et sucrée. La prévention classique était au rendez-vous pour ce groupe. Lorsque les adolescents ont dû choisir entre une collation mauvaise pour la santé et une collation saine, le premier groupe d'études a montré avoir choisi le choix qui était le plus sain, alors que le deuxième, lui, penchait sur le choix moins sain. Cette étude nous est utile puisque nous pouvons faire le même constat. La prévention classique ne sera pas une option pour accrocher les jeunes. Il faut trouver un moyen qui pousse les jeunes à prendre conscience des effets néfastes que peut avoir la délinquance sur eux et que lorsqu'il y aura à faire un choix, ce choix-là sera pris en fonction de leurs propres convictions et non pas parce qu'un conférencier contre la délinquance leur aura dicté. Enfin, l'une des premières choses à faire si on veut prévenir la délinquance chez les jeunes, c'est d'aller chercher des ressources pour soi. Et des ressources, il y en a. Plusieurs parents, professeurs ou amis ne sont malheureusement pas outillés pour faire face à ces problèmes, alors que ce sont eux qui sont le plus aptes à prévenir ces mauvais comportements. Nous sommes dans l'ère du numérique et les jeunes d'aujourd'hui sont nés dedans. On peut trouver des campagnes de sensibilisation en ligne pour informer les adolescents sur les risques et les conséquences de la délinquance. Vous pouvez aussi utiliser des exemples concrets et des témoignages pour rendre les messages plus pertinents. Aussi, c'est triste à dire, mais certains influenceurs peuvent avoir beaucoup plus d'impact qu'un parent ou qu'un ami et il faut essayer d'utiliser ça dans un but préventif. On retrouve aussi des groupes ou des forums en ligne où les jeunes peuvent se connecter, partager leur expérience et recevoir du soutien des pères et des adultes bienveillants. De plus, plusieurs spécialistes offrent leur soutien gratuitement en postant du contenu ou en mettant des outils à notre disposition. Ce serait dommage de s'en abstenir. Tous ces moyens existent déjà, mais beaucoup d'entre nous l'ignorons. Cependant, s'instruire sur le sujet reste le moyen le plus simple et efficace pour pouvoir régler le problème. Et en écoutant ce podcast, vous venez déjà de faire une grande part. De la part de toute l'équipe, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.